Bonsoir. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et démocratiques, des fractures sociales et des bouleversements technologiques, nous avons choisi de modifier notre programme et nous pencher sur une boussole singulière, Magnifica Humanitas, la première encyclique de Léon XIV. Ce texte ambitieux, qui justifie le nom que s'est choisi le pape américain, s'inscrit dans le contexte de la doctrine sociale de l'Église. Il entend réaffirmer la dignité de toute personne humaine et interroger nos responsabilités collectives face aux mutations du monde contemporain. Le texte est en vente, sera en vente à la sortie de la salle, et vous en trouverez sur le site de la Croix une version commentée, notamment par Gemma, ainsi que de nombreuses tribunes de réaction. Ce que nous avons noté à la Croix, c'est que les spécialistes, y compris non catholiques, ont été plutôt impressionnés par l'ampleur et la cohérence du texte. En revanche, les lecteurs ont été assez avares de commentaires. Peut-être que le sujet impressionne, mais j'espère que ça ne vous impressionnera pas et que vous poserez de nombreuses questions ce soir. Quelle vision de l'homme et de la société ce document propose-t-il ? Comment penser le bien commun à l'heure du numérique, des inégalités persistantes et de la crise écologique? Et quelles implications concrètes pour l'action publique et le débat démocratique? Pour éclairer ces questions, trois intervenants de haut niveau, tous trois docteurs en théologie, croiseront leurs analyses. Honneur aux dames, Gemma Serrano, vous êtes co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Et nous avons deux régionaux de l'étape, deux jésuites, Grégoire Catat, spécialiste reconnu de la doctrine sociale de l'Église et maître de conférence aux facultés Loyola Paris, et François Heuvé, rédacteur en chef de la revue Études. On va commencer avec vous, Grégoire. 135 ans après Rerum Novarum, Magnifica Humanitas s'inscrit-elle dans une continuité ou marque-t-elle une inflexion dans la doctrine sociale de l'Église? Vous avez 10 minutes.
Voilà, merci Vincent pour la présentation et je suis très heureux d'être là ce soir pour parler de ce texte dont j'espère que déjà un certain nombre d'entre vous ont pris un peu connaissance, mais qui je crois vaut vraiment la peine. Et de fait, il y a une forme de continuité, mais toujours avec des discontinuités aussi, des changements, des évolutions. Peut-être pour dire un petit mot, présenter cette encyclique, quoi. Le titre déjà dit beaucoup. Magnifica Humanitas, encyclique, avec le sous-titre « Lettre encyclique sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». Ça dit beaucoup parce que le cœur de cette encyclique, il s'agit bien de l'humanité. Voilà. Il s'agit de l'IA, mais il s'agit d'abord de l'humanité et de préserver l'humanité. Donc, commencer avec ces deux premiers mots, Magnifica Humanitas, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête et je pense qu'il dit beaucoup avec ce regard positif sur l'humanité. Et puis, il s'agit bien d'une réflexion à l'ère de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments de réflexion sur ce qu'est cette intelligence artificielle ou ce qu'elle n'est pas comme outil, mais finalement, il s'agit bien plus profondément de se dire qu'est-ce qui se passe à l'époque de l'intelligence artificielle. Et c'est là où on a comme un écho, comme Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, en 1891, donc il y a exactement 135 ans, là, l'encyclique a été signée le 15 mai, qui est aussi le jour où a été signée l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. À l'époque de Léon XIII, il réfléchissait qu'est-ce qui se passe, comment dire la bonne nouvelle, au milieu de cette révolution industrielle et de l'émergence de la question ouvrière. Eh bien, d'une certaine manière, Léon XIV, comme il l'avait annoncé quand il avait expliqué pourquoi il avait choisi le nom de Léon, s'inscrit dans cette ligne-là. Et donc, on a bien quelque chose d'une réflexion à l'ère de l'intelligence artificielle plutôt que d'une réflexion sur l'intelligence artificielle. Et je dirais, on pourrait ajouter, c'est finalement une actualisation, une réflexion, une actualisation de la doctrine sociale de l'Église, de l'enseignement social de l'Église à l'heure de la révolution numérique. Et de ce point de vue-là, c'est la première encyclique du pape Léon XIV. En général, les premières encycliques des papes ou premières exhortations donnent un peu une feuille de route, quoi. On avait eu, si on met un peu de côté, Lumen Fidei, qui était l'encyclique écrite par Benoît XVI et qui a été reprise par François. On avait Evangelii Gaudium pour François, vraiment, comme feuille de route. On avait eu Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme, pour Jean-Paul II. On avait eu Deus Caritas Est, Dieu est amour, pour Benoît XVI. Ben là, on a cette encyclique. Et donc, on peut percevoir que par derrière, le pape Léon XIV, sans doute, nous donne ce qui pour lui est une feuille de route, c'est-à-dire que l'Église a dans sa mission de dire des choses sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe, comme il le rappelle, l'annonce de l'Évangile ne peut oublier la vie concrète des peuples, en faisant allusion en fait à Léon XIII qui déjà disait ça quand on reprochait de dire, mais est-ce que l'Église a vraiment besoin de parler de la question ouvrière? Ben oui, parce qu'elle s'intéresse à la question des peuples. D'une certaine manière, on peut dire la même chose pour Léon XIV. Est-ce que l'Église est vraiment dans son rôle de parler de questions économiques, sociales, politiques à l'heure de l'intelligence artificielle? Oui, parce que l'annonce de l'Évangile ne peut oublier la vie concrète des peuples. Alors, cette encyclique, pour se le rappeler, on a entendu, mais c'est vrai que dans les médias, et c'est bien légitime, les médias, les grands médias généraux s'intéressent, non, La Croix, un peu plus loin, mais c'est bien normal, on s'intéresse à ce qui touche plus spécifiquement à l'IA et puis les applications, donc on s'intéresse beaucoup aux chapitres 3, 4 et 5, mais il y a quand même deux chapitres avant intéressants, voilà, le pape commence par faire une espèce de cours, de redire ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. D'abord en resituant, et c'est très important, en s'inscrivant dans le Concile Vatican II pour dire l'Église est en dialogue avec la société et s'intéresse à ce qui s'y passe. Elle ne se confond pas, la communauté croyante chrétienne ne se confond pas, la communauté politique ne se confond pas avec l'Église, mais en même temps, il y a bien des choses à dire sur ce registre-là. Et donc bien situé ce rapport de l'Église au monde, qui est le rapport inscrit dans Gaudium et Spes, qui est l'Église fait partie de ce monde, et en même temps, on rentre dans un chemin de discernement des signes des temps, des choses nouvelles, voilà. Donc ça, c'est ce qui situe, et c'est pour ça que l'Église a une doctrine sociale. Et puis, fait un peu l'historique, passe en revue tous les grands textes de cet enseignement social de l'Église depuis Rerum Novarum, en montrant à chaque fois que il y a des petites choses qui peuvent nous être utiles encore aujourd'hui. Puis dans un deuxième chapitre, revient sur les fondements, en insistant beaucoup sur la dignité humaine, de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et puis en travaillant un certain nombre de principes, au nombre de 5 là dans ce chapitre-là, la solidarité, la subsidiarité, la destination universelle des biens, la justice sociale, et bien sûr en commençant par le bien commun. Donc voilà, si on fait avec la dignité humaine, ça fait 6 principes qui sont développés. Et puis, après, il nous montre, dans le chapitre 3, et puis 4 et 5, il va nous montrer comment il va mettre en œuvre le fait que ces principes peuvent nous aider à regarder ce qui se passe aujourd'hui, à l'éclairer de la lumière de l'Évangile, et puis à nous orienter vers aussi des choses à faire. Et donc, le troisième chapitre, regardant ce qui se passe avec la révolution numérique et l'intelligence artificielle, et le chapitre 5, regardant un certain nombre de sujets, la question de la vérité, mais ça veut dire la question de la communication, de la vérité dans les informations, etc., la question du travail, qui est bien bouleversée avec la révolution numérique, et puis la question de la liberté, les esclavages modernes, quoi. C'est l'occasion pour le pape, on en a parlé aussi, c'est un point intéressant, de demander pardon, de faire référence au fait qu'on est dans des esclavages modernes, mais il y avait la condamnation de l'esclavage, ça a pris du temps dans nos sociétés et dans notre Église, 18 siècles, donc c'est quand même beaucoup. Et le pape demande pardon pour cette lenteur qu'a eu l'Église à condamner explicitement l'esclavage. Et puis le dernier chapitre va sur encore un autre sujet qui est la question de la guerre et de la paix, en proposant aussi un chemin pour construire une civilisation de l'amour. Voilà, donc on a quelque chose de bien construit et qui, encore une fois, est une illustration, redit ce qu'est la pensée sociale de l'Église, dit que c'est au cœur de la mission de l'Église, parce que cette rencontre de l'Évangile avec la réalité, la réalité du monde dans lequel nous sommes et les conséquences qu'on en a à tirer est vraiment au cœur du message de la bonne nouvelle. Et il montre comment cela s'applique aujourd'hui. Alors peut-être simplement pour retenir, il y a trois portes d'entrée, trois mots que j'ai envie de souligner, mais il y en aurait bien d'autres. D'abord, le mot discernement.
Jésuite pour rien.
Voilà. J'ai pas fait le compte, mais aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous donnent tout de suite le résultat, mais il y a quand même 36 occurrences du mot discernement ou du verbe discerner. Et voilà, le pape Léon XIV n'est peut-être pas jésuite, mais enfin en tout cas, il est bien chrétien et il nous invite à entrer dans le discernement. Et c'est bien le sens de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire qu'on est face à un certain nombre de phénomènes, de choses qui se passent dans le monde, qui ont une implication sur nos vies. Et ce qu'on est invité, c'est à choisir, à regarder et à regarder à la lumière aussi de notre foi chrétienne et à discerner pour agir. Et le grand discernement qu'il nous propose, c'est entreprendre le chemin de la construction de la tour de Babel ou le chemin de la reconstruction de la ville de Jérusalem, comme on le lit dans le livre de Néhémie. Voilà, après l'exil, un certain nombre de Juifs reviennent à Jérusalem et Néhémie organise la reconstruction. D'un côté, construction de la tour de Babel marquée par l'uniformité, par le désir de puissance, par une coupure avec Dieu. Et puis la reconstruction de Néhémie, sur laquelle on peut accentuer le fait que chacun y apporte sa contribution, que ça se fait une forme d'humilité à partir de ruines, mais tous ensemble et dans une communion aussi avec Dieu. Et donc, voilà, dans ce que nous construisons aujourd'hui dans nos sociétés, à l'heure de la révolution numérique, voilà, quel chemin décidons-nous de prendre ? Ce qui est important de souligner, c'est que dans ce discernement, on est bien dans la même dynamique et c'est rappelé de ce qui est proposé par la constitution Gaudium et Spes de Vatican II. Je cite, il revient, c'est une citation que reprend le pape Léon, il revient à tout le peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, mais tout le peuple de Dieu, mais aussi les pasteurs et théologiens, avec l'aide du Saint-Esprit, de scruter, de discerner, d'interpréter les multiples langages de notre temps, de les juger à la lumière de la parole de Dieu, pour que la vérité révélée puisse sans cesse être mieux perçue, mieux comprise, présentée sous une forme plus adaptée. Et ce discernement, ce regard, cette manière de scruter les signes des temps, c'est pas simplement pour le plaisir de l'intellect, mais c'est pour agir. Et le pape invite, ne craignons pas de nous salir les mains sur le chantier de notre époque. Il s'agit pour nous d'être, il le dit dans la conclusion, d'être, ou dans l'introduction, je ne sais plus, d'être collaborateur de l'œuvre de la création plutôt que spectateur résigné devant ce qui se passe et qui nous dépasserait. Et du coup, les critères qui sont rappelés de la doctrine sociale de l'Église, les principes, sont à traduire en pratique. Une approche responsable, une évaluation d'impact humain et social, une inclusion des plus fragiles, une alphabétisation numérique, une recherche et une industrie orientée vers la justice et la paix. Voilà, constamment, il y a des choses très concrètes qui sont dites. Le deuxième mot que je souhaite retenir et qui fait comme une porte d'entrée aussi pour lire cette encyclique, c'est l'invitation à désarmer, le mot désarmer. C'est un mot qui est cher au pape Léon. Dès sa première intervention sur le balcon de Saint-Pierre, le jour de son élection, il avait parlé d'une paix désarmée et désarmante. On pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'il entend par ça? Puis petit à petit, on voit bien qu'au fur et à mesure de toutes ses interventions, de ses discours, ça commence à prendre cher. Et là, il y a un paragraphe très frappant, une forme de punchline, mais qui est plus qu'une punchline, où il invite notre rapport avec l'IA, il nous faut désarmer l'IA. Il invite à désarmer l'IA, c'est-à-dire l'empêcher de dominer l'humain. Repérer les puissances, du coup il s'agit aussi de repérer les puissances qui sont à l'œuvre, et c'est assez précisément présenté dans l'encyclique. tout un enjeu avec le fait que c'est plus forcément les États, mais des acteurs privés qui ont le contrôle dans cette révolution numérique. Et donc ça pose voilà des nouvelles questions. Et désarmer, c'est voilà refuser les monopoles, c'est aussi refuser que on soit simplement dans une logique de compétition, et puis refuser aussi très concrètement que l'IA serve d'arme quoi pour nous détruire les uns les autres. Voilà, donc cette terminologie de désarmer est peut-être intéressante. Elle est reprise aussi, le mot revient dans un passage où il s'agit de désarmer les mots aussi. Pour construire la paix, il faut veiller aussi à la manière dont on parle, et c'est aussi peut-être aussi une conséquence, quelque chose qui a beaucoup fleuri avec la révolution numérique, l'impact des mots et l'espèce de libération désordonnée quoi, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment. Quoi. Voilà. Une paix désarmée et désarmante, c'est aussi une paix qui n'est pas simplement l'absence de combat ou de guerre, mais qui est une pratique de la justice selon un principe qui est très, très ancien et très classique dans la doctrine sociale de l'Église, mais qui est rappelé ici avec vigueur. Le troisième mot et dernier mot que je soulignerai, c'est la dignité humaine. C'est vraiment le critère central qui revient. C'est évidemment un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église, présenté ici comme un fondement, avant une petite distinction entre un fondement et puis des principes, mais peu importe. Ce principe de la défense, de la protection, de la promotion de la dignité humaine, finalement, est le critère vers lequel on revient en permanence et qui doit être la mesure pour nos actions dans cette époque de révolution numérique. Ce critère de la dignité humaine qui comprend en lui, et on le voit bien, c'est très souvent répété, l'attention aux plus pauvres, mais aussi l'attention à la maison commune. Voilà. Très régulièrement dans l'encyclique, on va voir... voilà. La défense, la promotion ou la préservation de la dignité humaine et la préservation, le soin de la maison commune. Voilà, les choses vont ensemble. On voit bien qu'on est 15 ans, on est 10 ans, un peu plus de 10 ans après Laudato Si. Et donc Laudato Si avait déjà actualisé la doctrine sociale de l'Église et on est dans la lignée. Je souligne le dernier point que sur cette question de la dignité humaine, il y a une section très importante dont j'ai l'impression qu'on n'a pas encore beaucoup parlé dans les médias, c'est pour ça que je le souligne ce soir, c'est ce qui est dit au sujet de l'importance des droits humains. L'importance des droits humains, la valeur suprême des droits humains. Là encore, une manière de rappeler, en s'appuyant sur le pape Jean-Paul II, sur le fait que l'Église regarde avec gratitude tout ce mouvement qui a permis l'affirmation des droits humains et le combat, l'affirmation, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis après, tout ce mouvement qui s'est mis dans le combat en faveur des droits humains. Et ce n'est pas inintéressant d'entendre cela répété quand on est à une époque où, y compris à l'intérieur de l'Église, parfois, il y a des formes de critiques, on parle des droits de l'hommiste, des dérives, etc. Là, on a un pape qui nous remet devant les yeux que c'est un chemin important et indispensable pour la défense de la dignité humaine et de tout être humain que de passer par cette défense très concrète des droits humains tels qu'ils sont exprimés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà, c'est la fin du chapitre, c'est dans le chapitre 2 qu'on trouve cela. Voilà, je vais m'arrêter là.
Vous avez tenu un petit peu plus de 10 minutes.
Mais c'était intéressant. Gemma, on va passer à vous. Donc Léon, comme l'a rappelé Grégoire, le pape appelle à désarmer l'IA. Est-ce qu'il a raison? Le problème, c'est qu'effectivement, quand on parle d'IA, donc on a depuis 2-3 ans, l'IA générative s'est imposée, mais effectivement, on a quand même de la peine à comprendre de quoi il s'agit. Donc si vous pouvez nous aider à comprendre de quoi il s'agit et en quoi on peut la désarmer, ça nous aiderait beaucoup.
Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et j'aimerais beaucoup comprendre tout ce que ça signifie désarmer l'IA, mais voilà, je peux dire certaines choses et voir aussi comment l'encyclique
Il y a les micros comme ça.
Mettez-le contre.
Comme ça. Ah. Plus haut. Comme ça, comme vous tournez la tête, on vous entend toujours.
Et je vous vois. Et ça va? Et je bouge plus. Bon. Ça va être très difficile. Vous l'entendez de mon accent. Je suis espagnole. Et j'ai vécu beaucoup en Italie. Et donc, quand on parle, on bouge les mains. Et donc, ça va être compliqué de vous faire tout ça sans bouger. Hein? Bon, c'était une petite digression, mais ça va être compliqué pour moi. Bon, ce que je voulais dire, quand on parle des IA, bon, pour commencer, c'est pas un mot singulier. Il y a énormément de typologies des IA. Hein? L'IA n'est pas uniquement l'IA générative avec laquelle on entretient des conversations comme ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral. Il y en a beaucoup. Du coup, il faut voir, c'est pluriel, ce que ça signifie. Quand on parle des IA, beaucoup de personnes vont dire c'est un instrument. Hein? C'est un instrument et cet instrument, ça dépend de ce qu'on fait avec. Hein? Beaucoup de gens disent avec un marteau, on peut faire des clous ou on peut tuer quelqu'un d'autre. Et ça dépend aussi de l'usage qu'on va faire de ces marteaux. Tout est... c'est un peu la faute de la théologie, pour ne pas dire c'est complètement la faute de la théologie. C'est Illich qui l'a dit, c'est quand on a fait la cause instrumentale dans le 11e siècle en disant qu'il y avait une intention qu'on mettait dans la matière qui était la matière. Il y a une forme qui donnait une intention à la matière. Cette matière, elle était neutre selon ce qu'on faisait. Il arrivait une chose, une autre, vous voyez. Donc, on va dire que l'IA, c'est un objet. Hein? Normalement, dans un téléphone ou dans un ordinateur ou dans une petite horloge, bon, peu importe la manière dont les usagers normalement interagissent. Et on pense que c'est un instrument. Et ce qui est très intéressant dans cette encyclique, parce que dans les autres papes, il y avait quand même des Jean-Paul II hein, et Benoît XVI, et même dans François, dans certains passages, il y avait encore beaucoup de l'instrumental. Et ici, dans différents numéros, mais des 92 à 94, mais partout, mais il est dit très clair, il dit... Il apparaît que la technique n'est pas un simple instrument. Et en 104, il dit, il ne s'agit pas d'un simple instrument à bien utiliser. Il n'est pas moralement neutre. Donc, première chose qu'il change de dire, c'est pas l'intentionnalité morale qu'on va mettre dans l'instrument en tant qu'usager, ou l'intentionnalité morale que les concepteurs vont mettre dans l'instrument pour usager. Vous voyez, les régimes sacramentaux qui passent à côté hein, de l'intentionnalité du moyen. C'est très intéressant d'abandonner cette conception. De la même chose, il va dire pourquoi ce n'est pas un instrument. Ce n'est pas un instrument, il nous dit, parce que elle devient un critère. Elle finit par déterminer ce qui compte et ce qui peut être écarté. Au fond, il est dit dans d'autres numéros, elle est un accélérateur du paradigme technocratique. Donc l'IA n'est pas un objet, même si elle prend forme dans un objet. Elle n'est pas neutre. Elle ne répond pas à une intentionnalité que c'est celui qui l'use ou celui qui la conçoit, même s'ils sont 10 000 personnes à la concevoir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des choses bonnes que le résultat sera bon. Il n'y a pas ce type d'intentionnalité, magie, de neutralité qui s'est fait. Hein. Il va nous dire que cette IA, elle est vraiment un accélérateur des paradigmes technocratiques. Et je pense que vous tous, vous avez bien compris les paradigmes technocratiques, hein, avec Laudato Si, Laudato Deum, Fratelli Tutti, tout ce que ça signifie. Hmm? L'IA, il nous le dira dans ses numéros 110, très clairement, il dit, quand il va parler des désarmés, mais il conclut comme ça en disant « L'IA est déjà un environnement dans lequel nous sommes immergés et un pouvoir avec lequel nous devons composer. » C'est pourquoi il ne suffit pas de la réglementer. Voyez bien, on va la réglementer, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des lois pour contenir, restreindre, contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre. Mais il ne suffit pas pour ça. Elle doit être désarmée et rendue accessible. Un exemple de pourquoi elle est un environnement. On appelle cela dans l'écologie des médias, McLuhan, Lewis Montfort, etc. Ça veut dire qu'elle est, je vais dire très, très vite, parce que j'ai que 10 minutes, vous me coopérez, parce que l'IA, on a l'objet IA qu'on ne sait pas. Mais si vous voyez l'objet IA, comme il va nous dire, hein, c'est déjà la terre. Et dans la terre, c'est l'exploitation des mines. C'est les terres rares. Et dans l'exploitation des mines, c'est l'impact écologique. Hein. C'est aussi les centres de données avec ses propres centrales nucléaires qu'ils sont en train de faire. C'est aussi les refroidissements des serveurs avec tout l'eau qu'on va consommer, même dans des pays où il y a une sécheresse incroyable. Ce n'est pas important, on utilise l'eau. C'est vraiment la Terre dans sa matérialité totale. Mais pas uniquement la Terre sur la superficie. C'est aussi tous les câbles transocéaniques. Mais pas c'est aussi les cieux. C'est une double peau, dit MMB dans la communauté terrestre. La technologie, c'est la Terre, l'exploitation, les câbles. Mais c'est aussi le ciel. Le ciel est plein de satellites et plein de tout. Tout ce qui permet cette communication. Donc, il y a c'est une infrastructure matérielle très forte, pour commencer. L'IA, c'est aussi toutes les exploitations et tous les esclavages qu'on fait. Vous voyez ? Toutes ces personnes, que ce soit les travailleurs des clics, que ce soit les enfants dans
les
mines.
Les travailleurs des clics, expliquez.
Ah, les travailleurs des clics, l'IA, ça ne se fait pas tout seul. Il faut l'entraîner, il faut l'éduquer. Il faut savoir s'il voit un chat ou un chien ou qu'est-ce qu'il faut. Et donc, dans les travailleurs des clics, il y a de tous les niveaux. Normalement, maintenant, ils étaient en train de prendre des professeurs universitaires, vous voyez ? C'est pas uniquement on va identifier l'image, il y a des travailleurs des clics de tous les niveaux.
Et d'ailleurs, à notre insu, on est travailleurs du clic parce que quand on va sur certains sites...
Je ne suis pas un robot, on travaille. Voilà. On continue
vous n'êtes pas
à
un robot, vous reconnaissez, là, il y a un feu tricolore... Vous devez cliquer sur la bonne image. Là, vous êtes en train de nourrir l'IA.
Donc, on entraîne ça. Mais il y a une énorme exploitation mondiale de ces travailleurs qui sont payés peanuts. Ils sont payés vraiment très peu. Et qui continuent. Ça n'existe pas, l'IA. Ça existe beaucoup de gens qui l'entraînent. Hein, et toutes les données qu'on leur donne. Donc, l'IA, c'est aussi ça. L'IA, comme vous le voyez, vous l'entendez, c'est une géopolitique. Hein, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, l'Europe, on n'a pas, donc on n'est pas dans la géopolitique de l'IA. Vous voyez, on a une géopolitique très forte. C'est une géopolitique des terres rares. Pourquoi ils veulent le Groenland, on est en train de discuter l'Ukraine, il y a des terres rares. Hein, c'est une géopolitique des terres rares. C'est une géopolitique aussi de mettre des centres de serveurs et des ressources d'eau. Là, maintenant, en France aussi, on va mettre ça. Bon, vous voyez. Donc, c'est tout ça. Et on n'est que là pour dire qu'est-ce que c'est l'IA. L'IA aussi, c'est tous les systèmes conçus, hein, les softwares et les hardware qui sont conçus. Et c'est toute la structure aussi, je passe hein, parce que je vais vite, c'est aussi tous les designs. Parce que vous voyez, si c'est un joli téléphone avec beaucoup de lumière, avec différentes couleurs, qui te fait des notifications et des musiques très belles et tout ça. Donc, c'est un designer. On fait ça pour que ce soit facile pour l'usager. Mon père a 93 ans et il s'amuse comme un fou. Il scrolle. Hein. Et parce que il passe du temps. Hein. Et ils nous laissent des messages. Bon, bref. Vous voyez, c'est pas une question des gaps générationnels. Ça, c'était un mensonge marketing. C'est vraiment une manière d'attirer l'attention, de capturer l'attention, de faire en sorte qu'on passe encore plus de temps et de temps et de temps à donner. L'IA, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi toute une infrastructure symbolique, parce que énormément, toute notre vie, tout ce qu'on fait, on l'a vécu pendant la Covid, mais on les voit encore aujourd'hui, c'est toutes les relations affectives, les relations amicales, c'est les relations de travail, c'est acheter, c'est la banque, c'est les impôts, c'est l'éducation. Vous voyez, c'est toutes les infrastructures qu'avant étaient indépendantes. Maintenant, elles sont toutes sous les signes de cette infrastructure. Hein? Maintenant, les hôpitaux, avant, hôpitaux, écoles, étaient séparés. Hein? Maintenant, elles sont tous sous les signes de cette numérique. Donc, vous voyez, quand on dit IA et quand on dit environnement, on dit tout cela. Hein? Et quand les papes passent de l'instrument à l'environnement, il fait des analyses de ce qui se joue en termes de pouvoir, de la puissance, en ce qui se joue en termes politiques, à ce qui se joue en termes de responsabilité et individuelle et collective. Et donc, vous voyez que la question qui va être posée, et ce qu'il nous dit, et là je vais m'arrêter, même si j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, c'est il prend une option, il nous invite à prendre l'option de construire, hein, il nous invite à prendre l'option de la bonne nouvelle de Babel, c'est-à-dire la pluralité des langues, la pluralité des cultures, hein, la dissémination, le fait qu'il est possible, je tiens toujours à la technodiversité, qu'il ne faut pas être uniquement avec un seul objet qui nous dit comment penser, comment écrire, comment rentrer en relation. Il y a énormément de techniques, hein, diverses pour rentrer en relation. Et puis, la chose la plus radicale, c'est vraiment la civilisation de l'amour, dans laquelle l'amour, ce n'est pas un sentiment bienveillant envers l'autre. Ce n'est pas un sentimentaliste, un romantisme, etc. L'amour a une force critique très puissante. Dorothée Solé, une théologienne, disait que s'il n'y a pas d'indignation, il n'y a pas d'amour. Pourquoi ? Parce que face à l'injustice, les premiers gestes, c'est celui de s'indigner. Hein ? Les premiers gestes, c'est celui de dénoncer, de désarmer les mots, de désarmer ce qui se joue dans cette IA que vous avez vu. Ce qui se joue, c'est de ces structures économiques, des esclavages, des colonisations. Il va dire, il dit, elle est coloniale. C'est très fort. On n'est pas dans une époque post-coloniale. On a pensé qu'on avait arrêté, mais non, il dit c'est colonial. Donc, il nous invite vraiment à discerner et à voir de quelle manière on peut désarmer. Ce n'est pas à faveur ou contre, vous voyez. Ce n'est pas à faveur, oh, je ne vais plus jamais utiliser. C'est penser quand est-ce qu'on a vraiment besoin de l'utiliser. Pourquoi et quand et comment et discerner aussi, parce que ce n'est pas qu'un usage. Et déjà, comme usage, si vous l'utilisez, vous pensez à tout l'eau qui est en train d'être utilisée ou à tous les gens qui sont en train d'exploiter, ça vous pose un peu une question de dire, hein. Mais est-ce qu'on est dans la phase d'une insensibilité technologique, entre guillemets, comme une insensibilité écologique, où peu importe les niveaux de la dénonciation, on va continuer à l'utiliser. Donc, vraiment, cette encyclique nous pose, nous donne pas des solutions. Parfois, les solutions, les mises en œuvre sont à interroger encore, mais il nous met sur les chemins, moi en tant que théologienne, sur les chemins de discerner qu'est-ce que ça signifie cet environnement et comment y vivre en tant que chrétien.
Merci beaucoup. François, donc on a commencé à percevoir que l'ampleur de cette encyclique, c'est quoi la portée de cette encyclique? Est-ce que vous êtes surpris par le ce qu'elle embrasse?
Effectivement, elle a une portée très large. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Elle a effectivement une portée très large qui dépasse simplement le domaine de l'IA. On avait annoncé une encyclique sur l'IA, mais enfin l'enjeu est beaucoup plus large. Ça a été dit déjà par Grégoire au début. L'enjeu est plus large et il porte, je dirais, sur toute, pourrait dire, l'aventure de la modernité en quelque sorte. L'IA générative en particulier, représente une sorte d'apogée finalement de cette grande aventure technique typique de la modernité. Je rejoins tout à fait le propos précédent de Gemma. Un instrument n'est pas neutre. Un instrument technique n'est pas neutre. Il a été conçu avec un certain projet. À l'arrière-plan, il y a une certaine vision de l'humain, il y a une certaine vision du rapport de l'homme au monde et du rapport des personnes humaines entre elles. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important de prendre conscience. Et l'encyclique, si elle démarre justement sur ce long développement, sur les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire quels sont les critères finalement qui nous font profondément humains, et c'est ça qui se joue profondément dans ce débat. Resterons-nous humains à l'époque où la machine envahit notre existence, y compris dans ce qui est une caractéristique de l'humain, à savoir la parole. Donc c'est ça qui est fascinant aussi dans l'IA générative, c'est que elle porte, c'est pas simplement un instrument, un robot, un matériel particulièrement efficace, mais c'est que elle concerne la parole. Et la parole, c'est vraiment ce qui est plus typique de l'humain. Donc là, on atteint un certain aboutissement finalement de cette aventure moderne. Or, cette aventure moderne, elle repose sur l'idée de puissance. C'est un mot qui revient aussi périodiquement dans le texte. Ou l'idée de maîtrise. Le chapitre 3 s'intitule Technique et maîtrise. L'idée de maîtrise. Et alors, c'est là où on voit aussi une résonance théologique. C'est pour ça que la théologie, finalement, elle est aussi incluse dans le débat. Parce que la puissance, on peut dire, c'est la caractéristique du divin. Dieu est tout puissant. Sans refaire toute l'histoire de la technique moderne, enfin, ou la technoscience moderne, on peut dire effectivement, c'est cette idée de cette image inconnue de l'Antiquité, d'une toute-puissance divine, une création ex nihilo, qui suscite, je dirais, la créativité humaine et la puissance humaine. C'est plus qu'un risque, c'est au fait que, à un moment donné, c'est l'humain qui prend le pas sur le divin. On n'a plus besoin, finalement, de références divines pour exercer notre propre puissance. Et c'est un peu ça l'état dans lequel on se trouve actuellement. L'encyclique renvoie au début du chapitre 3 que j'ai cité au célèbre ouvrage de Romano Guardini, La fin des temps modernes, qui est un texte qui avait déjà été cité par François, me semble-t-il. Nos dates aussi. La fin des temps modernes, où Guardini justement fait le bilan de cette aventure moderne et dit voilà, on atteint un point terminal en quelque sorte où certains basculements doivent s'opérer. Il y a à prendre conscience que nous sommes en quelque sorte dans une impasse puisque il y a un retournement. On pourrait citer Jacques Ellul, on a cité Illich, je pourrais citer son compère, si je puis dire, équivalent Jacques Ellul, qui a bien décrypté comment ce qui est censé être un instrument, un outil technique, qui nous donne une maîtrise sur le monde, devient notre propre maître, finalement. C'est-à-dire que nous devenons, alors c'est là où le mot esclave est aussi à citer, nous devenons en quelque sorte les esclaves de l'outil par lequel, enfin, comment dire, voilà.
Elles ont été censées être libérées, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Et donc, voilà, c'est ce retournement qui est en train de s'opérer et donc qui nous oblige à prendre conscience de ça. Alors, comment en sortir de ce piège, finalement? En prenant conscience que ce qui nous fait fondamentalement humain, c'est pas tellement la puissance, c'est même pas du tout la puissance, c'est, alors c'est pas l'impuissance non plus, hein, c'est ce que Élul appellerait la non-puissance, bon, c'est un peu subtil, mais en tout cas, c'est la relation et c'est, je dirais, l'interdépendance. C'est le fait de prendre conscience que ce qui nous fait profondément humain, c'est, oui, la relation, la compassion. Gilles Babinet termine son ouvrage, Le péril de l'IA, sur cette expression. Ce qui nous fait humain, c'est la compassion. C'est-à-dire, c'est la relation qui prend en compte le plus faible, le plus méprisé, le plus lointain, le plus pauvre. Voilà. C'est une certaine fragilité aussi, vulnérabilité. Bon, on a pu abuser un peu de ce vocabulaire, mais en tout cas, quoi, c'est fondamental. Et donc, se dépouiller, c'est là peut-être, là justement, ce désarmement, je le situe à ce niveau-là, se dépouiller de cette carapace qui est censée nous protéger parce qu'elle nous rend puissants, nous en dépouiller au profit de retrouver cette vulnérabilité, cette entrée en relation, cette fragilité qui nous fait construire ensemble quelque chose. Et c'est pas seulement une affaire de faiblesse, pas une complaisance dans la faiblesse ou dans l'impuissance, mais c'est dans le fait que dans ce travail en commun, nous construisons vraiment l'humanité. C'est là aussi ce qui nous fait humains, c'est la fraternité universelle. Cette fraternité, elle suppose justement cette communion, elle suppose cette pluralité. On peut revenir sur cette idée de la construction de Jérusalem dans le livre de Néhémie, qui suppose une pluralité d'acteurs. Cette idée aussi que le discernement doit se faire en commun. Il y a tout, justement, dénonçant la privatisation des instruments, etc. Enfin, il y a une cohérence qui dépasse, encore une fois, simplement une éthique de l'IA. C'est vraiment une éthique fondamentale, on peut dire, qui se dit dans ce texte. Et à ce titre-là, vraiment, il mérite d'être largement travaillé.
Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Ou on passe aux questions? Y a-t-il des questions? Allez, soyez plus hardi que les lecteurs de la Croix. Merci.
Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Alors, merci. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la subsidiarité, parce que je suis toujours étonné qu'un pape parle de subsidiarité qui n'est pas une des caractéristiques principales de l'Église, loin de là. Donc, comment est-ce que on peut donner le change?
Grégoire. Alors, très bonne question. Ça fait longtemps que l'Église parle de subsidiarité, depuis Quadragesimo Anno, donc 1931, le pape Pie XI. Et là, le principe est repris. Mais c'est vrai que la question de l'appliquer dans le fonctionnement interne de l'Église fait objet d'un certain nombre de débats. Peut-être qu'avec la synodalité, justement, il y a quelque chose, en fait, du principe de subsidiarité qui pourrait revenir. Ça me permet de dire deux choses. C'est qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'encyclique, dans la présentation de la doctrine sociale de l'Église, c'est précisément qu'à la fin du chapitre 2, le pape va dire « La doctrine sociale de l'Église, ça doit servir à faire un examen pour l'Église. » C'est à la fin du chapitre. Voilà, la section s'appelle « Un examen pour l'Église ». Et il commence un petit peu le travail en disant « le bien commun pour l'Église en ce moment, c'est la synodalité. Puis la destination universelle des biens, c'est telle chose. » Et je pense qu'il nous invite, il y aurait certainement besoin d'aller, on peut aller un peu plus loin, mais faire ce travail qui n'a pas toujours été fait dans les grands textes de la doctrine sociale de l'Église, un tout petit peu dans « Justitia in mundo », en 1971, le texte à la finale du synode des évêques. Mais c'est vrai que très souvent, la doctrine sociale de l'Église, on a souvent l'impression qu'on dit des choses qui s'appliquent pour les entreprises à l'extérieur ou les hommes et les femmes politiques et un peu moins à l'intérieur. Là, le pape Léon nous dit ça s'applique aussi pour nous. Voilà. Et donc, on va pouvoir reprendre, c'était la deuxième chose, de fait que la subsidiarité, comment on peut aussi la travailler dans l'Église.
François, tu veux? Non. Merci, madame. Allez-y, je pense que ça doit marcher.
Merci, ça marche, merci. Oui, quelque chose me frappe beaucoup depuis que l'on parle d'intelligence artificielle. Et aussi à travers...
Mettez bien le micro contre votre...
Oui,
vous comme ça on vous entend et quand vous bougez la tête, on vous entend.
Oui, à travers ce que le pape dit, mais à travers aussi ce que beaucoup pensent depuis qu'on évoque cette question de l'intelligence artificielle, c'est la notion d'idolâtrie. Et moi, je ressens que, en fait, cette infrastructure qui n'est pas un instrument, mais qui peut devenir, qui devient notre maître, on peut analyser le fait que, en fait, parce qu'on en fait une idole et que l'on est prisonnier, et à un point que on n'arrive même plus à pouvoir réfléchir en dehors. Enfin, il y a une espèce de course en avant dans tous les milieux professionnels et autres. Il y a une course en avant de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui ressemble à de l'idolâtrie.
Bon, là, les théologiens, vous pouvez répondre.
Bon, les rapports entre les sacrés et les techniques, il est très ancien. Hein. Elul, Illich, les rois Rouran, même Simondon, dans toutes les réflexions sur la magie. Donc, les rapports, il est très étroit entre les deux. Ça, c'est une première chose. On peut faire une idole de différentes manières quand on anthropomorphise l'IA. Comme ça parle, même si ça ne comprend rien, on a l'impression d'avoir quelqu'un avec discuté, pensé, on peut être surpris. Et donc, du coup, là, il y a une sorte d'idolâtrie qui se met en place. L'affaire de cette infrastructure, c'est que ça touche aussi à la politique et à l'économie mondiale. Parce que vous voyez que sans les investissements milliardaires pour ces affaires, il n'y aurait pas d'IA. Il n'y aurait pas ces infrastructures. Sans une volonté de marché d'investir, cela n'aurait pas lieu. Sans une volonté des politiciens d'obéir ou de suivre cela en raison d'un salut promu. Il y a presque quelque chose de l'ordre du salut, d'une eschatologie à venir qui ne viendra peut-être jamais, mais quand même on investit des milliards et des milliards pour un bien à venir dont on ne connaît pas. On connaît déjà les effets de ce bien à venir, donc imaginez ce qui viendra. Donc, et là, l'idolâtrie, c'est celle, quelque chose de très bête, celle de l'argent, celle de la soumission à cette veuf d'or, hein, cette veau d'or. Et donc, ce n'est pas vraiment un objet. Il est en train de dénoncer cette paradigme technocratique, cette critère qui est lié dans cette conception au moins occidentale, parce que, réjouissons-nous, malgré la volonté de l'ONU de faire que tout le monde, en 2030, quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, soit connecté, heureusement, cela correspond à 5 à 4 pays seulement. Hein. Le reste, ce n'est pas encore connecté. Grâce à Dieu, j'espère que ça n'arrivera pas. Et donc, il y a cette volonté qu'on dit du nord global face au sud global de, à nouveau, de mettre cela comme une réalité à vivre pour tous. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques, beaucoup d'intérêts des dominations, d'autres on dira des surveillances, des contrôles des gens, des manipulations. On a tous les exemples de ce qui est arrivé, des manipulations politiques, des manipulations des pensées, etc. Donc l'enjeu, il est très grand. Donc cette idolâtrie, elle est. C'est pas uniquement, je parle avec mon chat GPT ou avec Siri ou avec IA, c'est. Elle est très, très, au moins pour le Nord global, très, très puissante.
Autre question ? Oui, là-bas au fond.
Voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté comme éclairage. Nous sommes très, très sensibles à ce que vous dites de l'humanité, à ce que l'encyclique dit de cette exigence de faire vivre l'humanité. Alors, pour nous éclairer, est-ce que vous pourrez préciser peut-être les points suivants ? Un, de quoi a-t-on peur avec l'IA ? Deuxièmement, en quoi est-ce que c'est plus qu'un instrument, puisque ce n'est pas de l'esprit, ça ne pense pas, c'est une somme de calculs. Et troisièmement, à quel point et jusqu'où peut-on dire que l'on passe un seuil dans ce qui est proposé à notre humanité? Merci.
Et cela en 30 minutes. Merci, Henri, de cette question. La peur, oui, peur et fascination. C'est frappant de voir comment ces systèmes. ChatGPT a une popularité absolument extraordinaire. Enfin, c'est répandu avec une vitesse impressionnante. On pourrait faire un sondage qui dans cette salle a utilisé au moins une fois un système d'IA.
Vous pouvez lever la main.
Essayer. Oui. Ben voilà. Donc non, ouais. On aurait pu deviner. Mais merci. Fascination, c'est souvent accompagné de peur aussi. De quoi avons-nous peur? Ben, d'être dépassé. Certains prophètes, technoprophètes annoncent le dépassement de l'humanité, le transhumanisme ou le post-humanisme, le dépassement de l'humain par la machine. L'obsolescence de l'homme, c'est un titre célèbre, d'un célèbre livre de Günther Anders, mais qui remonte aux années 50 déjà. Donc il y a effectivement, alors après ça, c'est plutôt la question est aussi comment se libérer de cette fascination ou de cette peur par l'explication. Qu'est-ce que c'est que ces machines finalement? Le pape lui dit quelque part où je. Comment comprendre finalement, même si on a parfois du mal à comprendre comment ça fonctionne, mais en tout cas savoir que c'est du calcul, enfin c'est pas finalement si compliqué que ça, comprendre comment ça fonctionne, masse de données qui est moulinée et qui sort effectivement des choses qui ressemblent à un discours humain. La question, alors la deuxième.
Plus qu'un instrument.
C'est pas plus qu'un instrument. C'est un instrument particulier qui effectivement est très très élaboré, mais moi je n'en ferai pas plus qu'un instrument. Alors point de seuil, oui. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les outils ont augmenté les capacités de l'humanité, d'abord physiques, puis ensuite plus intellectuelles, le calcul, les machines à calcul, bon. Et là c'est la parole. On a quelque chose qui est de plus en plus anthropomorphe. Qu'est-ce qui reste après? Je ne sais pas trop, finalement, à perfectionner. On a du robot humanoïde qui parle, bon, on aura probablement dans quelques temps des apparences humaines, où on aura peut-être plus en plus de mal à distinguer une personne humaine, parce que aussi on a des systèmes de peau artificielle, enfin bref, qui parleront, avec qui on pourra entamer un dialogue. Donc là, il me semble qu'on atteint effectivement un certain point où il faut se poser des questions de fond, quoi. Est-ce qu'on continue dans cette direction? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Complète.
Grégoire.
Oui, j'ajouterais sur la question de la peur et de l'enthousiasme. Au numéro 129, le pape dit, en ce sens, le véritable choix ne se situe pas entre l'enthousiasme et la peur. Donc on n'a pas à décider, j'avais trop peur, maintenant il faudrait que je sois plus enthousiaste, j'étais enthousiaste, il faudrait que j'ai peur. Ça, de toutes les façons, c'est des choses qui nous traversent. Hein. Et certains auront plus du côté de la peur et ceux de l'enthousiasme. Donc il dit, le choix n'est pas entre ces deux choses, mais entre deux façons de construire. Un progrès au service de la personne et des peuples, ou un progrès qui les soumet à des logiques de pouvoir. L'IA, en reprenant un mode de questionnement de Jean-Paul II, l'IA rend-elle la vie humaine sur la Terre plus humaine, à tout point de vue, la rend-elle plus digne de l'homme? Et puis sur la question de l'instrument, et j'aimerais pour redire d'autres choses, moi ce qu'on sent très fortement dans l'encyclique, c'est précisément que de dire peut-être l'IA, c'est un objet peut-être technologique, mais ce qui se joue avec l'IA, quoi, est bien plus que la question d'adopter ou pas un objet. C'est pas la question est-ce que je prends mon marteau et que je tape ou est-ce que j'utilise pas de marteau et j'utilise simplement mon poing pour essayer d'enfoncer un clou. On a déjà connu ça dans l'histoire de l'humanité. Le jour où l'imprimerie est arrivée, ça a été bien plus que simplement une nouvelle manière de pouvoir transmettre les connaissances ou de se parler à distance. Quand il y a eu la machine à vapeur, ça a été quelque chose de différent. Et ce qui se passe, pas simplement avec l'IA, mais avec tous les outils numériques, voilà, on sent bien que c'est peut-être même d'un autre ordre. Et ce que permet, et les questions que pose l'encyclique, c'est précisément de se situer à ce niveau-là, comme l'avait expliqué Gemma. C'est pas simplement de se poser des questions éthiques, est-ce que je l'utilise bien ou pas, mais c'est tout ce qu'il y a en amont, en aval, et beaucoup plus largement. Ce qui n'empêche pas de se poser la question quand même aussi au niveau éthique, quoi. Et aussi, d'une certaine manière, l'IA est aussi un instrument. On peut déjà se poser des questions comme instrument, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'illusionner en se disant « j'ai répondu aux questions d'instrument ».
Oui, et aussi, la différence d'idées qui me viennent. Ça vous arrive d'avoir différentes idées? Ça vous bloque et vous ne pensez plus rien? C'est magnifique face à un public. Là, j'ai un vide sidéral, mais ça va arriver. Les idées. Et, par exemple, pour l'imprimerie, Ivan Illich, le théologien, il dit avec l'imprimerie, il y a différentes choses qui sont arrivées. Et, c'est-à-dire, dit, il y avait ce qu'il appelle les langues vernaculaires. Mais vernaculaires, c'est aussi les langues du lieu. Vous voyez, dans un village, on parle d'une manière, 15 kilomètres après, on parle autrement, différemment. Ce n'est pas si différent que ça, mais quand même, il y a des expressions locales, des langages vernaculaires. Et lui, il dit, en 1492, hein, avec Nebrija, que c'est un grammarien espagnol, il dit à la reine Isabelle, je vais faire une grammaire espagnole. Parce que la grammaire a été toujours alliée, est une alliée de l'Empire. Et lui, il va inventer, entre guillemets, le castellano pour créer une unité. Il est dit, armas et lengua. Les armes, les langues vont toujours ensemble. Et donc, il va dire, il va inventer pour enlever la langue libre, vulgaire, que chacun pratique pour créer l'unité, mais aussi pour coloniser, parce qu'à l'époque, Colomb avait découvert, et donc il fallait une langue de l'Empire pour le mettre. Et il dit, puis est arrivée l'imprimerie. Et dans l'imprimerie, il y avait des formes conviviales de lire les textes parce qu'on les lisait collectivement et les autres écoutaient et ça faisait des discussions dans les villages. Mais ce n'est pas les choix technologiques qui étaient faits, les choix technologiques qui étaient faits de dire chacun doit avoir son propre livre et doit lire en silence et doit être sans avoir ces formes conviviales de l'imprimerie. Voyez ? Donc, la question est, quelle forme est conviviale? Vous voyez, c'est pas uniquement l'imprimerie, c'est de quelle manière cette technologie, quelle infrastructure a mis en place cette technologie? C'est la même chose. Un autre exemple très contemporain, c'est un chercheur, Lyndon Winner, qui a écrit un fameux article, est-ce que les artefacts, donc les instruments, sont-ils politiques? Et il donne différents accents. Exemple, un exemple, c'est une université en Californie, je ne m'en souviens plus laquelle, je crois Stanford, bon, je ne m'en souviens plus, et conçoit une machine à recueillir les tomates de manière automatique. Donc, une machine à recueillir les tomates de manière automatique, vous direz, c'est un instrument, c'est neutre. Mais la mise en marché de cette machine de recueillir les tomates, qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte qu'il a besoin de beaucoup de terrain, pas uniquement des petits jardins individuels ou de peu de gens. Il a besoin de gros, de beaucoup d'hectares. La prise à la main coûte plus de temps, nécessite plus de personnes. Cette machine élimine aussi tous ces personnels qui prenaient les tomates à la main. Les plantes de tomates doivent être mises d'une certaine manière pour que la machine puisse passer. Pas seulement un agriculteur tout seul dans sa maison et avec son jardin ou avec un peu de terre ne peut pas se permettre de payer ces grosses machines. Vous voyez, c'est une machine, c'est un instrument, mais il est éminemment politique pour tout ce qu'il crée autour de lui. Vous voyez, comme ces chercheurs, et même les chercheurs qui étaient à laboratoire avant que tout ça soit mis en masse, je travaille avec beaucoup d'informaticiens, il dit, mais nous, on n'a pas pensé à toute l'infrastructure. Même les rêves du web au début, c'était le cyberespace, on allait se libérer des institutions, on allait être des citoyens libres en relation de tous. Hein. Maintenant, on navigue plus, au moins on avait le mal de mer. Maintenant, on ne fait que scroller dans un seul système. Même les mots disent de quoi il s'agit. Donc la chose, c'est que cet objet, ce n'est rien, c'est la fin, c'est un avatar de tout ce que cela génère et comment l'infrastructure a été créée. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est ça que le pape demande à voir, comment chrétiennement on peut transformer. Et la question, ce n'est pas, et là je finis, de dire on va accuser les capitalismes libertaires, destructeurs, quand même, il faut l'accuser, mais quand même. On ne va pas dire les trucs expiatoires, c'est le capitalisme qui détruit tout ça. On ne va pas dire c'est l'IA, les grandes entreprises, c'est lui. On ne va pas nécessairement chercher un coupable, parce que la question est de dire, avant l'IA, c'était mieux. Ah ouais, avant l'IA, c'était mieux d'un niveau de ces infrastructures, de justice sociale, de fraternité, des relations, comme s'il y avait un temps pré-technologique. Non, on a eu de la technologie tout le temps. La question, c'est, et c'est là la question que tous les deux papes disent, quel type de conversion intérieure, quelle exigence de justice on veut, quel type de fraternité on met en place, et comment on va l'exiger, on va choisir ou continuer dans ces constructions de Babel ou construire d'une autre manière le monde qu'on habite. C'est ça la question de fond qui est posée à mon avis.
D'autres questions là devant? Je vais en profiter pour poser une question parce que vous n'avez pas complètement répondu à la dernière question qui a été posée, à quel point on passe un seuil? Effectivement, donc pour la préparation de ce qu'on a fait dans la croix sur l'IA, j'ai parlé avec un des start-upers français qui a une boîte d'IA, qui me dit la grande crainte qu'on a, c'est de marcher sur une mine. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on arrive à une situation dans laquelle l'IA s'emballe elle-même. Enfin, je veux dire, et donc ça rejoint un peu la question du seuil. Est-ce que c'est la même chose d'inventer l'imprimerie, d'inventer la machine à vapeur et d'inventer l'IA, enfin d'adopter l'IA?
Je pense que c'est le
genre. Est-ce que c'est plus grave l'IA, quoi?
Ouais, mais c'est le genre. Enfin, moi, ma réponse à cette question, ce serait de dire, on le saura simplement plus tard quand on relira. Mon intuition est quand même, et tout porte, enfin tout ce qu'on réfléchit, on voit bien la place que ça prend, de dire, c'est certainement. Pour moi, c'est certainement quelque chose de l'ordre de l'imprimerie et de la machine à vapeur, mais c'est sans doute encore plus plus générale et plus, et tout ce que dit Gemma, à mon avis, va dans ce sens-là aussi. Enfin, mais en même temps, répondre à cette question, quoi, ça peut être une bonne manière pour s'en saisir, quoi, avoir conscience que c'est important, mais finalement, ça change pas grand-chose dans le fait que, de toute façon, il faut ça. C'est ce à quoi nous invite le pape, quoi, de dire, ben, c'est les choses nouvelles de cette époque. Et il dit, c'est pas simplement quelques spécialistes ou quelques politiques. Il nous dit, tous, on est concernés et tous, on a des choix à faire pour construire quelque chose de vivant. Alors évidemment, à des niveaux différents, les chercheurs et à certains moments dans l'encyclique, il distingue les choses. Ceux qui sont en charge de l'éducation des enfants, les chercheurs des universités. Il y a des moments où on va vraiment dans le concret. On l'a peu évoqué ce soir, mais c'est pour ça que ça vaut le coup de lire, et notamment les 4e et 5e chapitres, parce que très rapidement, on va jusqu'au bout d'ouvrir des pistes pratiques. Mais donc, voilà, l'enjeu, et du coup, d'où l'enjeu, est-ce que, puisqu'on est tous concernés, est-ce qu'on va construire comme à Babel, en ayant sous une chape d'un pouvoir pour être tous uniformisés ensemble, ou au contraire, chacun en co-responsabilité, apportant sa pierre à l'édifice et construisant une communion. Ben voilà, c'est ça le choix qu'il nous pose.
François ?
Je serais prudent à l'égard des prévisibilités, parce que les technoprophètes annoncent, j'ai fait allusion, le post-humanisme, le transhumanisme, enfin, on peut prolonger les courbes, hein, j'ai fait allusion au robot anthropomorphe, etc. Bon, sachant que ces systèmes consomment quand même une quantité considérable d'énergie, il n'est pas certain qu'on ait, si tout le monde utilise de plus en plus ces systèmes-là, qu'on ait suffisamment de ressources à la fois énergétiques et... voilà, ça risque de poser problème. Enfin, très très concrètement, hein, parce que on n'est pas dans le virtuel pur, hein, on est avec des machines qui consomment de l'énergie, qui consomment des matériaux, et tout ça évidemment est lié aussi à la conjoncture géopolitique. On a fait allusion en commençant aux considérations écologiques. Enfin bon, c'est beaucoup à tout le débat sur l'installation des data centers. Alors, on n'est pas dans la haute théologie métaphysique, hein, mais le débat autour de l'installation des data centers en France pose quand même des questions aussi très sérieuses.
Monsieur.
Oui, deux questions. La première, assez vague, au sujet de l'IA, un instrument. En vous écoutant ou en nous écoutant, je fais spontanément le parallèle avec la monnaie, alors qu'elle est arrivée au moment où elle a permis de sortir du troc, et c'était quelque chose de très matériel, et qui petit à petit s'est transformé en finance, et nous sommes dans un environnement qui tient compte inévitablement de la finance. Voilà. Et je trouve tout le parallèle entre grandeur et limite de l'IA, on pourrait aussi l'adapter au monde de la finance. Est-ce que c'est un parallèle intéressant à faire, qui fait que comme on arrive quand même à vivre dans cet environnement de la finance, il est possible aussi que l'on arrive à vivre dans l'environnement de l'IA? Voilà ma première question.
Qui veut répondre?
Bien, qu'est-ce que l'Église a dit sur la finance aussi, peut-être, peut être un parallèle.
Grégoire.
Oui, non, il n'y a pas. Faut rappeler que l'Église a dit des choses sur la finance, parce que quelquefois on dit que l'Église n'a rien dit, et elle n'a pas simplement dit de manière morale et en sortant de son champ, comme évidemment ceux qui sont concernés parfois tendent à rejoindre. Sous Benoît XVI, on a eu des textes. Le fond étant toujours de se ramener à la personne humaine, hein, de dire qu'est-ce que fait, quelles sont la manière de faire fonctionner la finance, les enjeux. En quoi ça impacte, et est-ce que ça impacte en bien ou en mal la personne humaine. Donc voilà, le parallèle, moi j'avais pas pensé, c'est pour ça que je laisserais plutôt Gemma réagir. Voilà, c'est suggestif, ça demande à penser. Ouais.
La monnaie.
Le parallèle, ouais, la première chose qui m'est venue, c'est de dire, il dit comment on vit dans la finance. Ça dépend de qui vit et dans quelles conditions on vit et comment on vit. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de déshérités dans cette finance. Et elle est faite pour ça, parce que, vous voyez, il y a les nombres des riches dans le monde, beaucoup, très étroits et très grands, et ils ont plus que, je ne sais pas combien de gens, hein, et les nombres de déshérités et des pauvres, même des pauvres qui travaillent tous les... ce qu'on appelle la nouvelle pauvreté, tu travailles tous les jours, mais tu as un travail, mais tu n'arrives pas à vivre. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions. Ce n'est pas parce qu'on y vit qu'on y vit d'une manière digne. Donc, et dans laquelle on y vit d'une manière qui respecte ses dignités humaines. Ça, c'est une première chose qui me vient. La seconde chose, oui, il y a un parallèle dans le sens qu'ils sont intimement unis, cette finance et cette... et cette IA, et c'est vraiment une volonté d'une certaine manière de concevoir la finance et de concevoir la finance comme pouvoir politique. Il va faire en sorte que l'IA va être promue partout comme inéluctable, on ne peut pas faire à moins, c'est une idéologie qui s'impose, on est toujours en retard, il faut alors encore aller plus vite pour pouvoir y rentrer. Et c'est ce discours que, selon moi, il faut désarmer, il faut démentir, il faut dévoiler pour à nouveau, à chaque fois, dire où est la justice, que faisons des plus pauvres, comment on vit ensemble, qu'est-ce que la fraternité, c'est toujours la même rengaine, entre guillemets, qu'en tant que chrétien, on a interrogé. C'est très simple. C'est Matthieu 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Ce n'est pas des élucubrations sentimentales. C'est très concret.
Est-ce que ça veut dire que, je veux dire, on lève la main, on lève tous la main quand on nous interroge sur est-ce que vous avez utilisé l'IA ? Donc ça veut dire qu'on est tous complices de ça ?
L'évangile de ce jour rappelle la rencontre, la question posée à Jésus, sur doit-on donner, payer l'impôt à César? Jésus demande une pièce d'argent parce qu'il n'en avait pas sur lui.
Monsieur, posez votre deuxième question.
La deuxième, c'est au sujet des paragraphes 123 et 125. Le pape fait l'apogée des institutions capables de protéger la vie de la communauté. Il fait appel à la Croix-Rouge, il fait appel à l'ONU, il fait appel à la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., la Convention relative des statuts des réfugiés. Et puis après, il cite Martin Luther King, Nelson Mandela, Teresa, etc. Mais je n'entends pas parler de l'abolition des droits de l'homme créée en France en 1981 par Robert Badinter.
La peine de mort.
Excusez-moi. L'abolition de la peine de mort, voilà. Je me désole. Peut-être parce que je suis un ancien aumônier de prison et que c'est un thème qui m'est cher. Ou bien parce que, comme Robert Badinter n'a pas été promu, semble-t-il, au rang de saint, ça n'intéresse pas le pape ou ça n'intéresse pas Rome. Est-ce que vous auriez une autre...
Non,
autre explication à me donner.
Ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que quand le pape écrit, il ne parle pas simplement pour les Français. Donc voilà, Badinter, tout le monde le connaît en France, un peu moins à l'étranger. La peine de mort. Sur la question de l'abolition de la peine de mort, c'est vrai que c'est pas repris de fait dans cette encyclique-là. Mais enfin, les papes récents l'ont quand même particulièrement parlé. Et je crois même que Léon, j'essaye de réfléchir, mais je me demande même s'il n'y a pas déjà eu un moment où il a pu faire allusion. Le fait de passer de la possibilité de que la peine de mort existe au fait qu'elle n'avait pas de raison d'exister, qu'elle peut en théorie exister, mais Jean-Paul II nous dit
la peine de mort, on a d'autres moyens d'assurer la sécurité de la société que de pratiquer la peine de mort, ça c'est Jean-Paul II, et avec François, on met dans le catéchisme de l'Église catholique explicitement que l'Église a dans sa mission se sent le devoir de lutter pour l'abolition de la peine de mort. On en franchit encore un seuil suivant. Donc, de fait, le pape Léon XIV n'en parle pas dans Magnifica Humanitas, mais je pense que c'est quand même toujours dans son radar.
Et la France n'a pas été le premier pays à abolir la peine de mort, en l'occurrence.
Question ? Alors, oui, je me permets de glisser une question entre celles qui vont venir encore du public. Peut-être pour vous, notamment, Gemma Serrano, puisque vous travaillez... Désolé. Cette question depuis quand même quelques années. En fait, je voulais vous demander, c'est une question un peu provocante, mais en gros, est-ce que le pape dit des choses vraiment nouvelles ou est-ce que c'est déjà ce que vous et les gens avec lesquels vous travaillez disaient déjà ? En gros, enfin, ce texte a un retentissement important. Est-ce que c'est parce que c'est le pape ? Ou est-ce que vraiment il apporte quelque chose à l'analyse, à la compréhension du phénomène ? Est-ce qu'il utilise des images nouvelles, voilà. Ou est-ce que vous retrouvez quand même les éléments de ce que vous travaillez déjà avec vos collègues spécialistes du sujet ?
Je pense qu'elle dit quelque chose. Alors, en tant que magistère, c'est nouveau. Voilà, c'est dans la continuité de François. Et c'est nouveau parce que vraiment, il affirme de manière très sérieuse cet environnement, cet critère du paradigme, cet amour. Et quand il parle de l'amour, de cette civilisation de l'amour, il va parler de l'amour social, de la fraternité. Donc là, vraiment, au niveau magistériel, c'est complètement nouveau. Et au niveau de la pensée, il va faire un diagnostic qu'on peut trouver pour ceux qui s'occupent du numérique, un diagnostic très, très fort hein, qu'il va poser parce qu'il utilise des mots désarmé, donc c'est une arme, pas uniquement pour la guerre, c'est une arme, esclavage, colonialisme, pouvoir, domination, manipulation, donc intoxication, dépendance, je veux dire, si vous prenez tous les champs sémantiques qui sortent du diagnostic, il est très, très puissant. Hein. Ce diagnostic a été déjà posé par de nombreux chercheurs, mais lui-même, il reconnaît qu'il a fréquenté ces chercheurs longtemps, qui ont l'aidé aussi à réfléchir. Et il avait déjà ceux de François aussi. Voilà, c'est ce que je dirais.
Vous êtes surprise qu'ils sortent un texte là-dessus ou pas ? Enfin, bon. Est-ce que dans la communauté des chercheurs sur ces questions, on a été surpris, on se dit...
En tant que ça faisait longtemps que tout le monde disait qu'il voulait un encyclique sur l'IA et qui était attendu. Voilà. Donc non, c'est. Je pense que il a pris un peu le temps de réfléchir. Il a eu différents documents, etc. Donc non, il n'y a pas de surprise. Il était important de se prononcer. La chose, c'est qu'on en fera de la lecture et de la réception. Ce n'est pas parce qu'il est en encyclique la réception conduit quelque part, hein, comme un concile. Ce n'est pas parce qu'il y a un concile que la vie de la réception.
Hein. Ouais. On peut rappeler que, de fait, sur cette question de la révolution numérique et particulièrement de ce qui se passe avec ce qu'on maintenant on appelle l'IA, depuis 6-7 ans, quoi, il y a eu un certain nombre de réflexions dans... au Vatican, différents organes du Vatican, des notes, des discours aussi, de messages pour la Journée mondiale de la paix du pape François, messages pour la Journée mondiale des communications, messages au G7. Donc on voit bien quand on suit la question que c'est une question sur laquelle dans l'Église, on réfléchit, et aussi au niveau du pape. Donc ça sort pas de nulle part. Et je dirais c'est très illustratif de la manière dont s'élabore le magistère sur les questions sociales. Le pape Léon l'a insisté dans sa présentation pour dire « j'ai écouté beaucoup », ça se construit sur le dialogue. Et si une des sources importantes, évidemment, pour la doctrine sociale de l'Église, c'est l'Écriture sainte, si la tradition et la tradition théologique est importante, le dialogue avec les sciences est aussi important. Et puis, ce qui vient de l'expérience à tous les niveaux, quoi, des fidèles. Et donc, là, on en a le fruit. Et d'une certaine manière, directement ou indirectement, tout déjà un certain travail de théologien, de chercheur, on les retrouve là. Mais évidemment, dit d'une autre manière et avec le rôle du magistère qui vient aussi proposer des orientations, qui redit des principes et des critères, qui tranche pas les questions au sens de dire d'un seul coup ça c'est bien et ça c'est mal, mais qui nous aide quand même à avancer dans notre chemin d'humanité, quoi. C'est quand même ça la mission du magistère là, sur ce point-là.
Moi, j'avais envie de vous interroger sur le processus d'élaboration justement de cette encyclique. Parce que ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est la résonance que ça a tout de suite dans le milieu intellectuel, industriel et de politique aussi. Ce qui me semble lié à un processus qui est reconnu comme ayant été très collaboratif. Et par contre, qui va demander que nous, on aille ultra vite, parce que la nouveauté, c'est l'accélération aussi, ça va très vite, l'IA. On aille ultra vite dans la façon de nous former et de former autour de nous, de diffuser cette encyclique. Donc, qu'est-ce que vous recommandez pour qu'on aille vite, bien? Parce que le discernement, ça s'apprend rarement très vite. Donc, comment faire pour des plus jeunes et pour le monde de l'entreprise, le monde de toutes ces gouvernances. Aujourd'hui, il n'y a pas... C'est le mot-clé dans le CAC 40, c'est la gouvernance. Par où on va passer pour que ça rentre dans les enjeux de gouvernance très rapidement.
Alors, juste un petit mot. Déjà, pour resituer, je pense que quand on avait eu l'encyclique Laudato Si, quoi, on avait aussi quand même quelque chose aussi de cet ordre-là. Quoi. Rappelons-nous, en 2015, quoi, Laudato Si est sorti au mois de juin. Dans les jours qu'on suivit, il y avait déjà... le président Obama qui en parlait, donc du coup les autres présidents et premiers ministres en parlaient, enfin il y avait eu beaucoup de remue, et dans la sphère des gens qui s'intéressaient plus profondément aux questions écologiques, ça a tout de suite résonné, même en fait plus rapidement que dans nos paroisses, quoi. Donc peut-être s'il y a un enjeu, c'est peut-être cette fois-ci on pourrait essayer de pas attendre 2-3 ans, quoi, pour s'en saisir comme fidèles catholiques, puisque d'autres s'en saisissent. L'autre chose aussi sur lequel moi je serais un peu plus dubitatif, j'attends de voir, c'est que certes, ça, on voit bien, il y a des éditoriaux, il y a des gens, tous les gens qui s'intéressent à la question un peu au niveau philosophique, au niveau éthique, se saisissent. Maintenant, j'ai pas encore lu beaucoup et il n'y a pas eu de tweet de choses qui revenaient de la Silicon Valley, hein, honnêtement, à part le patron d'Anthropique qui était présent pour l'exception, les autres, pour l'instant, ils ignorent.
Il n'y a quand même pas rien, parce que c'est la première fois qu'il y avait un...
Voilà, mais c'est pas rien, c'est significatif. Puis ça fait du débat. Je pense que ça montre bien. Et le pape, encore une fois, on peut regarder sur YouTube la conférence de présentation. On voit bien que le pape insiste sur le fait. J'ai écouté à la fois les gens de la technique, les entreprises. J'ai écouté aussi les gens qui souffrent de l'IA. J'ai écouté. Et donc il faut bien montrer. Enfin, il y avait une manière de dire, j'ai écouté, il y en a un qui est là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils se mettent complètement à sa botte, quoi. Mais après, il faut reconnaître que le reste, quand même, de l'écosystème des entreprises de la tech, pour l'instant, je ne les ai pas encore beaucoup entendus. Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, pas.
Bon, Gemma dit no comment.
Et après, ça, on peut débattre, hein, sur la pertinence ou pas. Je le vois plutôt positif.
Je n'ai pas entendu beaucoup de réactions d'hommes politiques, à part Jean-Luc Mélenchon. pas le sentiment que beaucoup de politiques y réagissent. Alors, les réactions, il y a beaucoup de réactions, effectivement, mais de gens qui réfléchissent sur l'IA, c'était frappant. En fait, les grands noms de l'IA en France, au moins en France, hein, j'ai pas beaucoup, ont réagi sur l'encyclique avec des commentaires intéressants, mais du côté politique. Oui, Thierry Breton, effectivement, dans la Croix.
Dans la Croix.
Dans la Croix, oui. Alors, c'est pas une figure politique, enfin, c'est une figure politique, si on veut, au sens large, oui, bien sûr.
J'aimerais bien être une figure politique, en l'occurrence. Encore une dernière question?
Oui, dans l'encyclique, le pape revient sur la notion de guerre juste, dans laquelle il revient d'ailleurs sur la notion développée par l'Église depuis plusieurs siècles. Pourquoi avoir choisi de la développer différemment ici lorsqu'il parle de l'intelligence artificielle?
Ces sujets-là, c'est toujours intéressant d'être précis. Alors évidemment, je ne vais pas retrouver le numéro. L'expression qu'emploie Léon, donc Léon XIV, voilà, il parle évidemment parce qu'il y a beaucoup d'enjeux quand même sur la manière dont l'IA est utilisée pour faire la guerre et les questions de responsabilité, la question de l'usage de l'IA pour tuer des gens, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, pour prendre des décisions sur les personnes qu'on va tuer. Donc, de rappeler qu'il y a quand même un très gros enjeu. Mais on ne sait pas pour le futur, c'est déjà aujourd'hui, quoi, de garder une responsabilité, enfin une responsabilité humaine dans les décisions létales. Et puis du coup, il revient sur la guerre juste, en fait, en reprenant, et le pape François est cité, mais simplement il dit bien la doctrine de la guerre juste. On voit bien qu'on est dans une autre configuration aujourd'hui que au moment où tout ça s'est élaboré, et donc il est peut-être nécessaire de la dépasser. Et je pense que le terme de dépassement est très important. Pour moi, il dit, il y a un certain nombre de commentaires de François, de gens qui commentaient les propos de François allaient dans ce sens-là. François n'a jamais jeté au panier tout ce qui était contenu dans la doctrine de la guerre juste, mais simplement il disait, on est dans un autre monde où, en fait, il n'y a pas de guerre qui sont... Ça, c'est quelque chose que l'Église dit en permanence, en soi, il n'y a pas de guerre qui sont justes, mais il y a des principes, des critères qui nous permettent de ne pas abandonner tout sens éthique et tout sens moral quand on en est réduit à se battre les uns contre les autres. Et là, le pape Léon emploie cette expression de dépasser, ça veut dire, c'est pas la même chose de parler et de réfléchir autour de la pratique de la guerre quand on se bat avec des épées et des lances, quoi, que quand on se bat avec des canons, que quand on se bat avec des armes nucléaires. Et aujourd'hui, quand on se bat avec l'IA qui peut décider, enfin, on peut déléguer, enfin, en fait, à une machine, quoi, la décision de tuer. Donc, du coup, le critère de la juste cause, de la proportionnalité, de l'ultime recours, etc., certainement peuvent nous aider à réfléchir, mais voilà, on voit bien que il faut penser sans doute d'une autre manière. Donc c'est là où il dit dépasser. Le dépassement, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire pas qu'on jette au panier ce qu'on utilisait avant, mais il faut qu'on essaye d'aller plus loin. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le lis. J'ai pas retrouvé le numéro, mais vous le retrouverez. C'est dans la cinquième partie.
Et en plus, il est en vente à la sortie.
Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous d'être venus. Donc cette soirée de mardi d'éthique publique, organisée en partenariat avec la revue Études et avec le journal La Croix, s'achève. Votre présence nombreuse ce soir nous ravit et on se dit qu'on a eu raison de changer le thème un peu à la dernière minute. Et donc merci aussi d'autant plus à nos intervenants qui ont été prévenus assez tardivement. Voilà, merci aussi à la régie, à Franck et Souraïch qui assurent la retransmission et toute la préparation. À très bientôt, enfin bientôt après l'été. On vous retrouvera à la rentrée pour une nouvelle année de mardi d'éthique publique. Surtout si vous avez des commentaires à faire sur les thèmes qui vous intéressent. Ça peut être l'occasion de le faire là avant de partir. Et donc, je vous redis que le texte de l'encyclique est disponible à la vente à la sortie. Et des boîtes pour faire un petit don pour la faculté Loyola qui organise ces soirées. Merci beaucoup à tous.